L'invitée de notre édition ce soir est Léa Benaïm, archéologue spécialisée dans le Moyen-Âge et l'art islamique, basée à Jérusalem. Elle va venir nous parler de la spécificité de l'archéologie en Israël et plus particulièrement à Jérusalem. Et on va également toucher les changements qu'ont causé le 7 octobre et la guerre qui s'en est suivie sur l'archéologie israélienne. Léa Benaïm, bonsoir.
Bonsoir Rachel, merci d'avoir invité.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, comme on l'a dit, vous êtes archéologue restauratrice spécialisée dans l'islam. Alors d'abord, est-ce que vous expliquez la spécificité de cette branche de l'archéologie qu'est la restauration ?
C'est une branche qui ne fait pas spécialement partie que de l'archéologie, c'est-à-dire qu'elle existe sous l'architecture aussi et les études d'art et des beaux-arts aussi. Donc à des bâtiments en fait qui sont trop anciens et qui perdent de leur stabilité, il faut en fait les remettre en forme, travailler leurs fondations, travailler les produits et dans les règles, les nouvelles règles pour que ça tienne aujourd'hui dans le monde de l'architecture, mais aussi utiliser les mêmes produits qui étaient utilisés à l'époque antique.
C'est-à-dire rester fidèle aux matériaux d'origine.
Exactement. Donc voilà, ça, c'est une branche qui est très qui en a plusieurs, même dans la conservation des bâtiments et de la restauration. Ça a plusieurs branches, plusieurs éthiques, et surtout, ça demande un regard spécial ou spéciaux sur tous les produits qu'on peut utiliser et surtout chaque endroit est différent.
Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de restauration connue ou de restauration que vous trouvez intéressante d'un point de vue archéologique au niveau de votre travail, quelque chose qui vous impressionne?
Il y en a beaucoup, surtout à Jérusalem. Il existe vraiment le projet de toutes les murailles de Jérusalem qui est magnifique et surtout il est fait en plusieurs étapes, il a plusieurs périodes, de byzantine, omaïde, c'est-à-dire on va sur plusieurs périodes qui sont très. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire la différence entre chaque étape. Donc, par exemple, ça, c'est des projets énormes que prend part et qui sont magnifiques. C'est-à-dire vraiment, ça demande un travail de fou et prend des années. C'est l'un des projets que j'aime beaucoup.
En Israël en général, et puis à Jérusalem en particulier, on a une richesse impressionnante du point de vue archéologique. Comme vous l'avez dit, il y a la muraille de Jérusalem, le Jérusalem, comme on l'appelle, le berceau des religions. Donc on a plusieurs lieux de culte extrêmement anciens, pour n'en citer que quelques-uns, la mosquée sur le mont du Temple, l'église du Saint-Sépulcre, le mur des Lamentations et d'autres. Est-ce que vous pouvez nous parler des sites les plus importants du pays et comment on fait face à la recherche archéologique au niveau de ces sites-là? Quelles sont les avancées?
Donc dans chaque période, en fait, c'est un peu spécifique. Ça veut dire qu'il y aura des sites plus importants que d'autres. Et des sites, par exemple, le Saint-Sépulcre, c'est vraiment un site énorme pour la religion, pour le christianisme, mais pour l'islam, ce sera plus, par exemple, Tibériade, qui était vraiment l'une des... ça s'appelait le Djoun et le Roudoun, c'était vraiment le centre au début de l'islam, l'un des endroits les plus importants.
Pourquoi Tibériade était l'endroit le plus important?
C'était vraiment la ville centrale de l'islam quand elle est arrivée ici. Ils se sont séparés de Bethléem et à l'époque qui était sur le chemin de Damasque, et surtout ils se sont rapprochés du Djoun et le Roudoun qui était ils se battaient ici dans le pays, en Israël, à l'époque, sur la place. C'est-à-dire qu'on avait vraiment le christianisme qui était là, qui voulait avoir sa place. Et l'islam qui est arrivé a dû fonder sa ville centrale, son endroit où vraiment commencer son empire. Donc Tibériade a été choisi à l'époque et ça s'est appelé. Et vraiment, c'était sur le chemin de Damasque. Donc, c'était le meilleur endroit pour eux.
Damas, pour les Français.
Damas, oui. Voilà. Pour chaque période en archéologie, ça a ses spécialités, ses complications et ses difficultés. Par exemple, la préhistoire, ce sera des endroits un peu plus comme Nahal Hamout, qui soit un endroit vraiment où on retrouve des origines de Homo sapiens et d'autres très importants. C'est vraiment, on peut dire qu'Israël, elle contient énormément d'endroits qui sont différents dans la recherche et surtout qui proposent énormément d'endroits un peu, même, ça veut dire, nous, on regarde, par exemple, l'archéologie comme, on peut regarder le christianisme, l'islam et les religions, et surtout le judaïsme qui a été ici, Israël, mais il existe encore énormément de périodes, énormément d'endroits qui vraiment qui a été qui font d'Israël en elle-même un endroit avec une fondation archéologique très importante, que ce soit la préhistoire, que ce soit le Moyen-Âge surtout, et bien sûr l'âge de bronze et l'âge de fer.
Donc là, Benhamim, vous, comme on l'a dit, vous travaillez à Jérusalem, plus spécifiquement dans la région du Mont du Temple. Comment se passe le travail dans cette région-là, surtout depuis le début de la guerre? Quels ont été les changements? Comment était le travail avant? Comment est le travail maintenant?
Après la guerre, c'est vraiment, ça a été un gros coup pour l'archéologie. Pas comme l'État, c'est-à-dire c'est pas la même chose, ça n'a pas les mêmes proportions. C'est juste que l'archéologie je vais parler en tant que aujourd'hui restauratrice aussi. Il manque des gens pour travailler et surtout donc en archéologie, par exemple, on peut voir qu'après la guerre, beaucoup de fouilles archéologiques qui demandaient, en fait, qui faisaient ramener des gens d'en dehors du pays, de l'étranger, pour venir être volontaires pour les fouilles archéologiques, ça veut dire plus de gens et plus de possibilités de recherche. Donc là, on voit très bien que la moindre personne qui se propose cette année, qui veulent venir en Israël pour être volontaires. Dans la restauration, c'est un travail qui est basé surtout sur des travailleurs, dans la restauration de bâtiments surtout, c'est basé sur des travailleurs palestiniens. Et comme les frontières ont été fermées, ou même des endroits comme Bethléem, Béthiala, beaucoup venaient de ces endroits-là, ont été un peu plus. Enfin, sont fermés, où les travailleurs ne peuvent pas venir ou passer même les frontières. Donc on a perdu beaucoup, beaucoup de mains de travail et ça pose problème. On peut être en projet, par exemple sur les murailles, on est trois restaurateurs sur la muraille, sur un petit morceau de muraille de la vieille ville, par exemple. Donc c'est pas suffisamment de travail, ça demande plus de travail des gens de mes coéquipiers et des gens avec qui on travaille. Ça veut dire travailler deux fois plus dur et surtout ça influence des projets, des gros projets.
Mais est-ce qu'il y a une urgence à restaurer certains bâtiments? Ma question, en fait, c'est est-ce que le fait qu'il y ait un manque de main-d'œuvre en ce moment, ça peut avoir une conséquence néfaste sur les bâtiments qui sont en restauration?
Déjà, ça veut dire qu'on s'il n'y a pas de gens qui peuvent travailler dans les projets, ça veut dire qu'on perd de l'argent. On perd les subventions qui ont été données par l'État ou même qui proposent en fait qui donnent cet argent pour ces projets-là. Et deuxièmement, c'est la restauration, ce qui tient aujourd'hui tiendra toujours. Ça veut dire on n'a pas c'est pas une demande qui est super importante maintenant à faire, mais il y a des projets qui sont oui importants qui pour l'État par exemple de remettre un endroit qui peut être présentable pour le public, qui veut dire plus de touristes, qui veut dire plus de rémunération pour l'État et pour nous, en gros, pour l'agence. Donc ça nous influence aussi, c'est-à-dire ça nous influence beaucoup, et surtout on perd du travail. Et ça influence surtout tout ce qui est touristique dans l'État aussi.
C'est ça. Donc, en fait, ce qui est intéressant et qu'on ne penserait pas forcément, c'est que derrière l'archéologie, la restauration, il y a des considérations évidemment économiques, culturelles, politiques, puisque, comme vous l'avez dit, par exemple, le travail de restauration ne peut pas être fait à cause de la situation politique actuelle, qui fait que les travailleurs palestiniens ne peuvent pas rentrer en Israël. Et c'est le sujet de ma prochaine question, puisque l'histoire, on le sait, c'est un instrument qui peut être utilisé à des fins politiques pour créer le mythe d'un État, ou comme par exemple l'histoire peut être utilisée pour mener des guerres ou avoir une légitimité sur un territoire, comme par exemple en ce moment même entre la Russie et l'Ukraine. Ici, dans notre région, est-ce que vous pensez que l'archéologie est utilisée à ses fins politiques?
Je crois qu'ici, en Israël, elle est utilisée presque uniquement à des fins politiques, dans l'archéologie. Enfin, bien sûr, là, les recherches, et que c'est un pays qui a beaucoup à donner archéologiquement et historiquement, mais je crois que les projets de fouilles qui ont le plus reçu d'aide d'État ou d'autres, et qui est très important aussi, c'est exactement pour prouver l'histoire du judaïsme en Israël et pour prouver notre existence ici, c'est-à-dire de génération, et de trouver le royaume de David, et de trouver vraiment toute cette histoire-là qui donne vraiment plus de fondation à l'histoire du judaïsme, et surtout en Israël.
Qui assaille donc la légitimité du peuple juif en Israël.
Exactement. Et je crois que c'est utilisé de toutes les manières qui sont possibles. Ça veut dire que c'est pas, ça n'a pas de limite et ça n'a pas de règles aussi. C'est-à-dire ce qui est important aujourd'hui pour nous, et surtout dans l'archéologie, je suis pas dans ces recherches-là, donc je suis que à côté, mais je vois que même en étant archéologique spécialisée dans l'islam, on aura beaucoup plus de difficultés à avoir des sources pour fouiller plus longtemps avec plus de gens que ce qui est pour trouver les plus gros projets qui sont en rapport avec vraiment avec l'histoire d'Israël et enfin l'histoire du peuple juif, exactement. Donc c'est utilisé à des fins politiques, c'est sûr, mais c'est pas que ça, et surtout ça a beaucoup de, j'ai pas envie de dire que c'est que ça, mais ça a beaucoup de part dans, ça reçoit énormément de sources, ça, pas de sources mais
de subventions,
exactement, voilà. Donc ça se voit, et oui, pour le bien et pour le mal, mais oui, ça marche malheureusement aussi comme ça.
Léa Benaïm, alors une dernière petite question, si vous deviez nous conseiller un parcours de lieu à visiter à Jérusalem, quel serait-il ?
Il y a un parcours énorme à faire à Jérusalem qui demande à mon avis, plusieurs jours même, pour voir vraiment tout ce qu'on peut voir. Ça peut être vraiment même dans les endroits où un peu plus habités, comme Kriyat Yovel, si on regarde exactement où des bâtiments qui se construisent et tout ça, on peut voir qu'elle a vraiment des nouvelles fouilles archéologiques, des belles choses à voir, des beaux monuments, donc on en a partout. Donc ce que je peux proposer, ça serait de commencer par l'hôpital de Augusta Victoria qui se trouve sur le mont des Oliviers. C'est un endroit normalement qui est pour les pèlerins chrétiens, mais c'est tout un parcours qui est vraiment à une proposition énorme d'endroits qui sont très beaux pour l'islam et pour le christianisme. Mais ce qui est bien dans ce parcours-là, c'est de commencer d'en haut, puisqu'on peut voir toute la vieille ville d'en haut, descendre le mont des Oliviers et commencer vraiment à rentrer dans la vieille ville et rentrer dans les alentours de tout ce qui ça s'appelle le Ophel, Ir David, la cité de David, et surtout et vraiment après à la fin, je propose de monter sur le mont du Temple pour ceux qui qui veulent et qui peuvent. Pour voir le Haram el-Sharif aussi, de finir là-bas dans le Dôme du Rocher. Je trouve que c'est un endroit qui, on peut pas y rentrer, mais on peut le voir de dehors et c'est des mosaïques magnifiques et qui racontent très bien l'histoire de Jérusalem, de tous ses parcours, de toute son histoire. Et le Mont des Oliviers, donc, est vraiment un endroit magnifique pour commencer un beau trajet vers la vieille ville de Jérusalem. Donc voilà, et surtout je sais que c'est un endroit qui n'est pas facile à aller, mais parce que c'est un endroit qui est un peu plus difficile d'arriver, mais si on marche là-bas, ça peut être une très belle marche et surtout que des beaux bâtiments sur le chemin, donc vraiment ça serait magnifique.
Léa Benaïm, merci beaucoup déjà pour toutes ces informations extrêmement intéressantes sur l'archéologie et la restauration à Jérusalem. Et puis, on va sans
Merci à
faute
toi.
faire ce
Ça va.
parcours. Merci d'avoir accepté notre invitation et bonne soirée.